Bonjour à toutes et à tous, Fabien du Cinéma Le Bourguet, Fort Calquier, semaine du 13 au 19 décembre, c'est l'ultime semaine de ce programme 88, et peu avant donc les vacances de Noël, vous allez prendre connaissance du tout nouveau programme, le 89, qui paraît cette semaine, à compter de ce jeudi, sur le marché paysan de Fort Calquier notamment. En attendant, quelle semaine, les amis? 6 films sont à l'affiche et beaucoup de raisons de venir au cinéma. Vous êtes nombreux d'ailleurs et nombreuses à fréquenter le cinéma ces dernières semaines. On s'en réjouit. C'est une belle année pour nous qui va s'achever dans une quinzaine de jours, 3 semaines. Et peut-être avec ce feu d'artifice que représente la fin d'année en général, cette semaine-ci tout particulièrement. 6 films à l'affiche, on vous le disait. On commence avec Napoléon de Ridley Scott. Vous avez sans doute entendu beaucoup de choses sur ce film. Sur le papier, en tout cas, beaucoup de bonnes raisons là aussi de le fréquenter en salle. Un casting qui fait envie, Joaquin Phoenix, un des grands acteurs de sa génération, Vanessa Kirby, qu'on connaît encore assez trop peu peut-être en France, et qui est une remarquable actrice britannique. Joaquin Phoenix est lui américain, et Ridley Scott est un réalisateur britannique. On retrouve dans un rôle secondaire Tahar Rahim, l'acteur français qui depuis a fait carrière aux États-Unis. Ludivine Sagné dans un rôle secondaire aussi, pour ce qui est des acteurs français donc. Voilà, beaucoup de personnages, de décors, un film qui dure plus de 2h30, et un film donc de Ridley Scott, qui est un cinéaste qui, à notre estime, ô combien, depuis Les Duellistes en 77, son premier long-métrage, déjà se passait à cette même époque historique, sous Napoléon en 1800. C'est un réalisateur qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de France, puisque Les Duellistes, déjà adapté d'une nouvelle de Conrad qui s'appelait Le Duel, était déjà un petit morceau d'histoire de France. Et puis vous vous rappelez qu'en 2021, précisément, il a réalisé Le Dernier Duel, qui lui aussi se passait au Moyen-Âge pour le coup, en Normandie, en France. Donc il y revient avec ce Napoléon qui n'est pas assurément celui que Stanley Kubrick avait envisagé de faire dans les années 60-70 peut-être, auquel il avait renoncé. Je crois que Ridley Scott s'en est du moins inspiré. Il a eu le souci de certaines choses, d'un point de vue historique, et puis d'autres non, à l'égard desquelles il a pris beaucoup de liberté. Donc vous avez sans doute entendu beaucoup de critiques de ce film, à raison, notamment sur des points qui ne sont pas de détails historiques, mais on peut aussi penser qu'un réalisateur fait bien de l'histoire ce qu'il veut, mais il y a des choses qui posent problème. Assurément, il y a des partis pris intéressants et d'autres plus problématiques, mais c'est tout l'intérêt pour moi de voir et d'aller au cinéma voir le film d'un tel réalisateur qui prend ses partis pris, et je trouve intéressant, quoi que vaille le film, de s'en faire sa propre idée. Je ne dis pas forcément toujours ça, il y a des films qu'il est bon d'éviter, on s'efforce de faire un choix pour vous, à la mesure de notre salle unique du Bourguet à Fort Calquier. Ce film-là, je trouve, compte tenu de la dimension du personnage, de la dimension polémique aussi, et du regard un peu nouveau que l'on porte ces dernières années sur le personnage de Napoléon, qui reste, je crois, quand même par bien des aspects très méconnu, il est intéressant d'en voir une nouvelle lecture d'un réalisateur britannique, et évidemment les Anglais en ce temps là furent les grands ennemis de Napoléon. Donc ce n'est pas du tout un film hagiographique à cet égard. Il y a des aberrations, il y a des choses tout à fait étonnantes, et notamment dans l'interprétation de Joaquin Phoenix. Il y a un aspect beaucoup plus intéressant autour du personnage de Joséphine, et comme je l'ai entendu, on aurait pu trouver légitime que ce film finalement s'appelle Joséphine plutôt que Napoléon. Voilà, autant de choix qui font l'intérêt du film malgré tout, en dépit de ses qualités ou de ses ratages. Je trouve qu'il est toujours intéressant de voir l'interprétation qui est faite d'un tel événement, d'une telle vie et d'un tel parcours, en l'occurrence dans l'histoire de France, celui de Napoléon Bonaparte. Il est programmé pour 5 séances cette semaine-ci, 2 séances sont en VO vendredi et samedi. Les 3 autres, mercredi, dimanche et mardi, sont en version originale sous-titrée français. Napoléon de Ridley Scott, le film dure plus de 2h30. Prévoyez-le dans votre planning.
General.
We are discovered.
Good.
Wait!
Ice! It's a trap!
Retreat!
I'm not built like other men.
What is your name?
Napoleon.
As the course of my life has changed, Napoleon.
I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head.
You want to be great? But you are nothing without me. Say it.
Whose country are we in? Mine.
Le deuxième film de la semaine, rien à voir, c'est peu dire. Un film que personne n'attendait ou bien n'attendait plus. Certains, certaines peut-être, avaient découvert le film dans la sélection Un certain regard à Cannes en 1993. Rendez-vous compte, il y a 30 ans, ce film était à Cannes et n'est jamais sorti en France par la suite. Ce film pourtant est une merveille, il fait la couverture du programme numéro 88 du Bourguet, cette si belle affiche qui renvoie à toute la séquence finale qui est littéralement un feu d'artifice dans une année cinéma. Il s'appelle en français « Déménagement », c'est un film de Shinji Somai, ce nom ne vous dit rien. Et c'est normal, Shinji Somai est un cinéaste méconnu en France, ô combien estimé au Japon, notamment par les cinéastes d'une des plus récentes générations, mais déjà reconnu comme Koreeda Hirokazu, le réalisateur d'Une affaire de famille, Ryosuke Hamaguchi, le réalisateur de Drive My Car notamment, qui le considère comme l'un des grands cinéastes japonais des dernières décennies. Shinji Somai était né en 1948, il est mort à seulement 53 ans en 2001, d'un cancer, et seul Typhoon Club, film de 1985, était sorti de son vivant en France. C'est peu dire qu'on a oublié ce film, qu'on a oublié son réalisateur, qui s'est montré particulièrement prolifique dans les années 80, depuis The Terrible Couple en 1980, son premier film, et puis jusqu'à, évidemment, Déménagement en 93, et trois autres films suivront jusqu'en 2000. Donc une dizaine de films, une douzaine peut-être, dans cette carrière trop tôt abrégée. Shinji Somai, qui réalise donc Déménagement en 1993, et le film est splendide, parce que d'abord, la mise en scène est d'une inventivité, d'une légèreté, en dépit de la lourdeur possible du sujet, un divorce, le traumatisme, en tout cas les obstacles que ce divorce impose à la jeune fille du couple, qui est une adolescente, Ren, qui est interprétée magiquement par une toute jeune actrice, donc qui avait peut-être 11-12 ans au moment du tournage. Elle s'appelle Tomoko Tabata, elle a depuis ses 30 dernières années fait carrière en tant qu'actrice. Et les deux interprètes des parents sont aussi formidables. Et on va la suivre. On va littéralement s'engouffrer dans ses pas. Et Dieu sait si elle bouge et si elle court. Et c'est un motif esthétique, un motif aussi de liberté, d'affranchissement que les courses répétées de Renko. Et c'est un motif pour nous de réjouissance que de suivre ce personnage tellement libre, tellement surprenant dans l'affirmation de sa liberté, de sa réflexion, parce qu'évidemment le divorce de ses parents, son père qui déménage, ben ça la remue de mille et une façons, dans son rapport aux parents, dans le rapport à ses camarades, à sa classe, à l'école, à son quotidien. Et on a rarement vu vraiment un personnage d'enfant ou de prime adolescente aussi affirmé, aussi beau, vraiment, dans la souveraineté qui est la sienne et dans sa liberté. Toute la séquence finale qui est assez longue et qui nous offre à nos yeux ébahis, à nos oreilles émerveillées, un changement de registre ô combien bienvenu, surprenant, auquel donc l'affiche entre en résonance. C'est une merveille que l'on découvre 30 ans après sa réalisation, mais non pas trop tard. Et espérons que ce film, qui connaît un certain succès, et la révélation que, que représente cette sortie d'un film de Shinji Soma et déménagement. Espérons que ça va inciter d'autres distributeurs aussi aventureux que Survivants, c'est Guillaume Morel en l'occurrence, à faire restaurer les films de Shinji Soma. Et je précise que d'ailleurs que cette restauration a valu aux distributeurs Survivants, Guillaume Morel, le Lion d'Or, un lion du plus beau film restauré à Venise en septembre dernier. On est très heureux, après notamment la semaine japonaise avec les films de Wenders et le film d'Ozu Voyage à Tokyo, de vous proposer cette semaine-ci Déménagement de Shinji Soma et un autre film japonais qu'on vous incite grandement à venir découvrir. Il est programmé en version originale pour 5 séances cette semaine, dès ce mercredi 13 décembre à 18h.
お父さんもお母さんもこうして別々の方がええのよ。たまには電話し、どっか連れてったるわ。
まず乾杯や。蓮とお母さんの新生活にな。お父さん、もうあかんの？お父さん、お母さん、いつの？早く大人になるから。
蓮？何それ？
On en vient au nouveau film de Katalki Evere, cette réalisatrice qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, révélée il y a quelques années. Elle fait partie de cette promotion de la Fémis à laquelle on associe aussi Rebecca Zlotowski notamment. Alors, on l'a découverte, Katalki Evere, qui a 43 ans cette année. Avec un poison violent, c'était en 2010. Suzanne, que j'aime tout particulièrement, qui avait valu un César du meilleur second rôle féminin à Adèle Haenel en son temps, c'était il y a 10 ans, en 2013. Réparer les vivants par la suite. Elle a réalisé avec son compagnon Elie Cisterne aussi cette mini-série que vous avez peut-être vue qui s'appelle Le Monde de Demain. Et réalise aujourd'hui un film au classicisme affirmé, quoique surprenant à certains égards, Le Temps d'aimer. C'est un mélodrame. Voilà, donc le mélodrame souvent impose une forme de classicisme que l'on apprécie, ou peu, ou pas, ou beaucoup, et qui, en l'occurrence, a pour atout principal ici son casting, avec certaines des meilleures actrices, sans doute, de leur génération. Ils ont à peu près le même âge. C'est Anaïs de Moustier, qu'on ne se lasse pas de découvrir de rôle en rôle. Vincent Lacoste également. À leur côté, Morgan Bailey, que je ne connaissais pas, qui joue ici le G.I. Jimmy. Et c'est cette relation entre les trois personnages qui s'avère si belle et si surprenante dans la durée du film et des personnages. Ce film-là, donc, mélodrame affirmé, je le disais, nous transporte depuis les bords de mer jusqu'à Châteauroux en 1947. On est vraiment dans l'immédiate après-guerre, avec des personnages chacun chargés d'un secret qui va couver et évidemment peser aussi sur le destin de ces personnages interprétés par Anaïs de Moustier et Vincent Lacoste. C'est la beauté de ce scénario, de cette histoire, à l'ampleur romanesque, là aussi voulu par Katalki Evere. Le film a remporté plusieurs prix au dernier festival d'Angoulême. Le Valois, qui est le prix du festival, en l'occurrence, d'Angoulême. Et il a également été sélectionné au festival du film de Cabourg en juin dernier. Le Temps d'aimer, c'est un film donc de Katalki Evere qui est programmé pour 5 séances cette semaine.
Daniel ! Merci beaucoup.
Il y a pas de quoi ?
Je l'ai pas vu partir. Merci.
Sois sage.
Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez, le père de Daniel?
En fait, ça n'a pas duré longtemps.
Comment il va faire, mon père, pour retrouver si je change de nom?
Daniel! Pourquoi tu fais ça? Daniel, arrête-toi!
C'est quoi son nom?
Ton seul père, c'est François, c'est lui qui t'a élevé.
Dis-moi son nom!
Je te connais pas, en fait. Est-ce que c'est vrai, tout ça? Vous deux.
Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis pas heureux sans toi.
On vous a proposé il y a 4 semaines, 3 semaines même peut-être, le dernier film en date de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, c'est cet très grand cinéaste italien apparu dans les années 60 avec les poings dans les poches et qui a aujourd'hui 84 ans. On vous l'a dit hein, ces dernières semaines, beaucoup de grands films sont l'œuvre de cinéastes fort âgés, Ken Loach, Bellocchio, Miyazaki, et jusqu'à aussi évidemment Ridley Scott cette semaine. Et aujourd'hui donc, le nouveau film de Marco Bellocchio. Alors le nouveau film d'ailleurs, l'expression est assez peu adéquate, puisque le nouveau film, on vous l'a proposé il y a un mois, c'était L'Enlèvement, il était montré à Cannes cette année. Mais l'an dernier, ou peut-être il y a 2 ans, on a vu un autre film de Marco Bellocchio qui s'appelle Marx peut attendre. Ce film-là est sorti en même temps que le nouveau, L'Enlèvement. Il est d'un tout autre genre ou registre. C'est un film documentaire très personnel. Et il y a quelques films documentaires très personnels qui répondent à une quête qui appartient en propre à Marco Bellocchio, à son histoire, à sa famille, à son parcours personnel. Ici, Marx peut attendre, ce si beau titre. C'est une expression employée par son frère d'ailleurs, et c'est justement autour de son frère qui s'est suicidé en 1969 à l'âge de 28 ans. Et ce film-là justement tourne autour de la figure de son frère, Camillo. Camillo s'est suicidé en 1968 à l'âge de 29 ans, et comme pour beaucoup de familles, c'est une histoire qui a été douloureuse et qui l'est restée depuis lors et qui a été refoulée, largement refoulée. La douleur a été refoulée et déniée, même le personnage du frère, la culpabilité de chacun et de chacune. Celle-là même éprouvée par son frère jumeau, non, quand je ne l'ai pas dit, c'était un frère jumeau, Marco, donc le réalisateur, qui a enfoui en lui certaines choses, notamment une lettre que son frère lui avait adressée. Et ici, donc, alors que le réalisateur a 84 ans, il revient sur cette histoire, courageusement, audacieusement, sans doute répondant à une nécessité intérieure pour faire le jour sur cette histoire enfouie depuis 55 ans aujourd'hui. Et grâce à des archives, et c'est le montage qui est de ce film qui est très beau et très pertinent et très stimulant aussi dans la réflexion et dans ce que cela évoque en chacun de nous, dans nos rapports à notre famille, à la place qu'on lui donne, à nos frères, à nos sœurs. C'est à travers ces archives familiales, celles-là même aussi de l'histoire de l'Italie, puisque vous savez que Marco Bellocchio est un cinéaste qui s'intéresse particulièrement à son dernier film en date, L'Enlèvement, en témoigne une fois plus, à l'histoire récente, ou plus ou moins récente d'ailleurs, ou contemporaine, de son pays d'Italie, qu'il revient sur cette histoire-ci et qui s'efforce de faire le jour. Alors, pas tant sur la forme de l'autoportrait ou d'une approche psychanalytique, mais la réflexion, comme ça, est très active à travers les différents éléments qui vont composer ce film. Et c'est aussi toute une époque qui ressurgit, celle-là même, des années 60, et la relation et les points communs, les affinités que les deux frères partageaient en ce temps-là. Donc c'est à la fois une histoire très personnelle qui va recouper une époque et des choses qui nous parlent à toutes et à tous en propre. Marx peut attendre et programmer, puisque le film connaît une distribution très singulière, donc il n'aura que 3 séances cette semaine, ne le manquez pas. Si vous avez vu quelques films de Bellocchio, évidemment, il vous touchera plus particulièrement, mais nul n'est besoin d'avoir vu des films de Bellocchio pour être touché par cette histoire-là et pour être sensible à la manière dont Bellocchio s'efforce de résoudre, ou en tout cas d'aborder dans une quête très personnelle cette histoire. Marx peut attendre et vous est proposé pour 3 séances, jeudi 14, samedi 16 et lundi 18 pour une dernière séance. Marx peut attendre de Marco Bellocchio.
Carissimo Marco, è quasi un anno che non ci vediamo.
Camillo era un ragazzaccio simpatico e con molta voglia di divertirsi. E quando finalmente si è, come avrebbe detto la mamma, sistemato, e lì c'è un mistero, caro.
Sai, poi ti dici, se mi avesse detto che cosa gli succedeva.
È stata una cosa che se l'aspettava. E che se l'aspettava.
No? C'è una lettera di Camillo, di... Ma scusa, questa lettera a me? A te.
E tu gli hai risposto?
Le film jeune public de la semaine s'appelle La course au miel. C'est un très joli film d'animation à partir de 3-4 ans. Un film produit entre la Pologne et la Chine qui raconte le périple éminemment sylvestre et forestier d'un ourson et de son père qui vont se mettre en quête d'un Eldorado de miel pour préparer un gâteau d'anniversaire. C'est très... Vous verrez, les couleurs sont très douces et chatoyantes. On est vraiment sur une saison très automnale, le rythme est tranquille, l'animation délicate en 2D numérique avec un effet de papier découpé. Et c'est une belle réussite qui évoque les souvenirs de Winnie l'ourson, si vous en avez. C'est l'œuvre de la réalisatrice Anna Blachik qui revient aux sources de l'œuvre d'Alan Alexander Milne. Et c'est donc adapté d'une série, d'un album d'abord pour enfants, « Hug Me Please, fais-moi un câlin s'il te plaît ». Et d'une série animée polonaise qui s'appelait elle-même Hug Me. La course au miel, c'est donc le film d'animation de la semaine, jeune public. Il est programmé pour 2 séances, dont ce mercredi 13 décembre à 16h pour un ciné-goûter. Et la seconde séance est le samedi 16 décembre à 16h également.
Petites abeilles, où êtes-vous ?
Coucou les abeilles ! C'est très bizarre. Plus une goutte. Toutes les ruches sont vides. Mais où est passé le miel ?
Silence ! Tout le miel de cette ruche est allé rejoindre l'Eldorado.
Oh ! Papa, tout le miel se trouve dans l'Eldorado. Là-bas, il y a des cascades de miel. On doit absolument y aller.
Nous sommes sur le point de pénétrer dans un monde totalement inconnu. Regarde jusqu'où nous sommes arrivés grâce à notre détermination. Nous sommes les chercheurs de miel.
Chercheurs de miel !
Dans la foulée de celle-ci, c'est-à-dire le samedi 16 décembre à 18h, c'est un rendez-vous qui nous importe ô combien. C'est le troisième rendez-vous de notre cycle Jean Eustache. Vous savez qu'on aime Jean Eustache. Alors j'ai beaucoup entendu certaines d'entre vous faire la moue à l'annonce du cycle Jean Eustache. Ah bon, moi j'aime pas beaucoup La Maman et la Putain, etc. Mais en général, vous n'avez vu que La Maman et la Putain. Avec le cher ami Pierre de Zinzine, on a consacré une émission qu'on vous incite à écouter, parce que l'émission Plus est rediffusée en amont de chaque nouvelle séance de ce cycle. Pour revenir sur l'œuvre et la filmographie, le parcours de Jean Eustache, car Jean Eustache, en effet, ce n'est pas que La Maman et la Putain, et c'est tout l'objet de ce cycle que de vous faire découvrir à la fois la grande diversité de l'œuvre d'Eustache et son intime cohérence qui est très grande d'un point de vue esthétique, moral, etc. Il y a plein de films passionnants et je pense qu'on peut ne pas aimer La Maman et la Putain tout en s'intéressant particulièrement à Mes Petites Amoureuses, à Une Sale Histoire, d'autres encore, Les Photos d'Alix, certains des films qu'on vous présentera dans les mois à venir, à raison donc d'une séance par mois. Après vous avoir proposé les deux premiers moyens-métrages d'Eustache en octobre réunis sous le titre Les Mauvaises Fréquentations, après avoir montré et programmé Les Deux Rosières de Pessac, voici le film charnière de l'œuvre de Jean Eustache. Je dois vous dire que ce cycle que je suis ravi de vous proposer dans sa globalité, pour moi, connaît un point d'orgue avec la présentation ce samedi 16 décembre de Numéro 0. Alors on ne vous parle pas ici du festival qu'on a le plaisir d'organiser avec la Miroiterie au printemps, mais du film de Jean Eustache, qu'on avait bien à l'esprit d'ailleurs quand on a intitulé le festival ainsi, parce que ce film, je le répète, est un geste unique, inédit, dans l'histoire du cinéma, déterminant, décisif dans le parcours de Jean Eustache, qui va, il y a vraiment un avant et un après numéro zéro, et en faisant ce film, qui n'a quasiment pas été vu en son temps, le film est réalisé en 71, et juste après, dans la foulée, il réalisera La Maman et la Putain, qu'on vous proposera début janvier, mais l'idée était de faire table rase, à la fois de tout ce qu'il avait fait, mais d'une certaine manière aussi de tout le système qui permettait le cinéma dans sa production habituelle et standard, disons. Donc numéro zéro, c'est un retour aux sources, en quelque sorte, c'est-à-dire au film Lumière, rien de moins, mais avec beaucoup de simplicité, un entretien durant 2 heures en temps réel avec sa grand-mère, et c'est passionnant, et ça va marqué et influencé beaucoup de cinéastes dans les 20 dernières années, des cinéastes qui, comme nous, avons découvert le film très tard, puisque le film, on le croyait perdu pendant des décennies, Eustache est mort en 81, en pensant que le film lui-même était détruit. Il avait réalisé par la suite un montage pour la télévision de 52 minutes qui s'appelait Odette Robert, c'est le nom de sa grand-mère, qui était décédée entre-temps. Mais le film initial dure 2 heures. Il a été montré à 8 personnes en 1971, et puis après, Eustache l'a rangé. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Et cette histoire incroyable de la production, de la réalisation de ce film, on va vous en parler en détail parce qu'on a invité aujourd'hui le meilleur spécialiste de Jean Eustache. Il a publié avant l'été un livre remarquable qui s'appelle « Jean Eustache, un amour si grand », trois petits points, aux éditions Capricci. On aura plusieurs volumes de ce livre grâce à la Carline en vente au cinéma ce samedi à 18h. Et on va revenir sur tout le parcours et l'œuvre de Jean Eustache. On va insister particulièrement sur le geste incroyable qui est celui d'Eustache avec ce film numéro zéro. On évoquera ce que ce film a provoqué et les films qui ont découlé de cette démarche inédite. Et puis on reviendra sur, dans l'ensemble, ce qu'a été la vie, le travail, les films de Jean Eustache avec Philippe Azoury, donc l'auteur de ce livre, paru aux éditions Capricci. On est ravis d'accueillir Philippe Azoury, par ailleurs critique à Libération notamment par le passé, qui est l'auteur d'un livre sur Philippe Garrel aussi, sur Jim Jarmusch, sur Werner Schroeter. Critique éminent et un œil particulièrement aiguisé quand il regarde les films pour en parler, pour écrire leurs propos, et tout particulièrement sur Jean Eustache. Donc cette séance exceptionnelle avec Philippe Azoury autour du film numéro 0 de Jean Eustache, c'est ce samedi 16 décembre à 18h. C'est immanquable, j'insiste, ça va être une merveilleuse séance.
On est bête quand on est jeune. C'était des caprices de gosse, c'était terrible ça.
Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine au cinéma et ailleurs, et on vous dit à la semaine prochaine.